Rodolphe Töpfer, la bibliothèque de mon oncle. J'ai connu des gens élevés sur le seuil de la boutique de leur père. Ils avaient retenu de ce genre de vie certaines connaissances pratiques des hommes, certains penchants musards, le goût des rues, quelques trivialités d'idées, la morale et les préjugés du quartier. On en a fait des avocats, des ministres, et dans chacune de ces vocations, ils ont apporté de ce seuil de boutique bien des éléments, bons ou mauvais, toujours ineffaçables. D'autres, en ce temps-là, je veux dire vers 15 ans, avaient leur petite chambre sur une cour silencieuse, sur des toits déserts. Ils y sont devenus méditatifs, peu au fait des affaires de la rue, assez riches d'observations privées sur un petit nombre de voisins. Ils y ont acquis une connaissance de l'homme, moins générale mais plus intime. Combien de fois aussi, privés de tout spectacle, ils ont vécu avec eux seuls pendant que l'autre, sur son seuil, toujours recréé par la vue de quelque objet nouveau, n'avait ni le temps ni l'envie de faire connaissance avec lui-même. Avocat ou ministre, pensez-vous que celui de la petite chambre n'aura pas une manière autre que celui du seuil? Et ce qu'on voit passer de son logis, et les gens qui circulent autour, et les bruits qui s'y entendent, et les objets tristes ou riants qui s'y rencontrent, et le voisinage, et les cas fortuits. Oh, que l'éducation est une chose difficile. Tandis qu'à lumineuse intention, sur le conseil d'un ami ou d'un livre, vous dirigez l'esprit et le cœur de votre fils vers le côté qui vous agrée, les choses, les bruits, les voisins, les cas fortuits conspirent contre vous ou vous secondent, sans que vous puissiez détruire ces influences ni vous passer de leur concours. Plus tard, il est vrai, après 25 ans, le logement. Plus tard, il est vrai, après 20-25 ans, le logement fait peu. Il est triste ou gai, confortable ou délabré, mais c'est une école où les enseignements ont cessé. À cet âge, l'homme fournit sa carrière. Il a atteint ce nuage d'avenir qui, tout à l'heure encore, lui paraissait si lointain. Son âme n'est plus rêveuse et docile. Les objets s'y mirent, mais ils n'y laissent pas d'empreinte. Pour moi, j'habitais un quartier solitaire. Ce quartier est celui qui avoisine l'église cathédrale de Genève. La maison dont il est ici question est connue sous le nom de Maison de la Bourse française parce qu'elle appartient à un établissement de bienfaisance destiné à secourir les Genevois protestants d'origine française. C'est derrière le temple de Saint-Pierre, près de la prison de l'évêché. Par-dessus le feuillage d'un acacia, je voyais les ogives du temple, le haba de la grosse tour, un soupirail de la prison et au-delà, par une trouée, le lac et ses rives. Quels beaux enseignements, si j'avais su en profiter! Combien la destinée m'avait favorisé entre les garçons de mon âge! Si j'ai mal profité, je tire gloire néanmoins d'être issu de cette école plus noble que celle du seuil de boutique, plus riche que celle de la chambre solitaire, et d'où devait sortir un poète, pour peu que ma nature s'y fût prêtée. Au fait, tout est mieux pour le mieux, car je ne doute pas qu'à aucune époque les poètes n'ont été heureux. Or, savez-vous, parmi les plus favorisés, qui ait jamais pu étancher sa soif de gloire et d'hommage? En connaissez-vous, parmi les plus grands, et surtout parmi ceux-là, qui ait jamais pu être satisfait de ses œuvres, y reconnaître les célestes tableaux que lui révélait son génie? Vie de l'heure, de déception, de dégoût. Et encore, ceci n'en est que la surface. Je m'imagine qu'elle recouvre des troubles plus grands, des dégoûts plus amers. Ces têtes-là se forgent une félicité surhumaine que chaque jour déçoit ou renverse. Ils voient par-delà les cieux et ils sont cloués à la terre. Ils aiment des déesses et ne rencontrent que des mortels. Tasse, Pétrarque, Racine, âmes tendres et malades, cœurs jamais paisibles, toujours saignants ou plaintifs, dites un peu ce qu'il en coûte pour être immortel. Ceci est l'effet et la cause. C'est parce qu'ils sont poètes qu'ils éprouvent ces tourments. C'est parce qu'ils éprouvent ces tourments qu'ils sont poètes. De cette lutte qui se fait en eux, jaillit, comme l'éclair de la nuit, cette lumière qui nous frappe dans leurs vers. La souffrance leur révèle les joies leur apprennent la souffrance. Leurs désirs vivent à côté de leur déception. Et de ce riche chaos, de ces fécondes douleurs, naissent leurs sublimes pages. Ainsi, ce sont les vents orageux qui tirent de si doux sons de cette harpe solitaire. Je m'étonne donc moins d'avoir ouï dire à un homme de sens qu'il vaut mieux être l'épicier du coin que le poète du monde. Giraud que Dante Alighieri. Cette idée que je me fais du poète, elle est si vraie que, voyez, je vous prie, à quoi prétendent tout d'abord ceux qui aspirent à cette vocation? N'est-ce point à ce trouble, à ces peines, à ce riche chaos, si possible? Ainsi que l'on singe la vertu par des paroles de sainteté, ils singent, eux, la poésie par des paroles de tristesse, d'angoisse, d'ineffable douleur. Ils souffrent dans leurs vers, ils gémissent dans leurs vers, ils y traînent à 20 ans un reste éteint de vie décolorée, ils y meurent. Presque tous commencent par là. Ah, mon ami, il n'est pas si facile que tu penses d'être triste, malheureux, affligé, d'être tourmenté de désir, fasciné d'extase, de décolorer sa vie, de mourir comme il voit. Ôte donc ton masque que nous voyons ta face réjouie. Mais pourquoi, mon gros camarade, ne pas suivre la ta nature? Quel avantage si grand trouves-tu donc à passer pour gémissant et plaintif, pour mort et jamais enterré? Au reste, quand je parle de féconde douleur, je n'entends point dire par là que tout grand poète gémit et pleure nécessairement dans ses vers, mais au contraire que ses plus riantes extases recouvrent d'amers déplaisirs. Alors même qu'il nous entraîne dans un aimable Élysée, alors même qu'il peint la beauté sous ses plus célestes traits, c'est le vide de la terre qui le fait déployer son essor vers ses hauteurs fortunées. Il est peintre de la santé parce qu'il est malade, de l'été parce qu'il erre sur les glaces, des eaux fraîches parce que tout est aride alentour. Le malheureux goûte quelques instants d'ivresse et il nous fait boire à sa coupe. Pour nous le nectar et pour lui la lie. Mais voici qu'à ce propos je découvre une pensée honteuse qui se cache derrière un repli de mon cerveau. C'est la pensée que je suis bien aise pour mes plaisirs, qu'il ait existé de ces âmes souffrantes, que des infortunés aient vécu de peine durant de longues années pour laisser quelques pages, quelques strophes qui me charment, qui m'émeuvent un instant. Profond égoïsme du cœur, cruauté du plaisir qui s'immole tout à lui-même. Mais aussi, Racine épicier, Virgile détaillant. Non, je n'ai pas encore assez de sens. Sur mon crâne chenu n'ont pas passé assez d'années encore. Un jour viendra, et trop tôt, où, plus sensé et non moins égoïste, se tiendrait ce propos devant les jeunes hommes. Et la pensée que je radote, s'élevant dans leur cerveau, s'épandra sur leur front, et ne s'arrêtera que sur leurs lèvres. Il y a dans le cerveau beaucoup de ces pensées honteuses qui se cachent par pudeur, qui se taisent, craignent de se faire retenir, qui parfois, venant à surgir hors de leur cachette, font circuler la rougeur sur les fronts honnêtes. Un jour, un homme fit une battue dans son propre cerveau. Il en sonda les replis. Il chercha dessus, dessous. Il visita les plus obscurs recoins et de ce qu'il trouva, fit un livre. Le livre des Maximes. Miroir fidèle où l'homme se voit bien plus laid qu'il ne croyait l'être. Et le duc, en cela, avait suivi la maxime de Socrate, qui exhorte l'homme à regarder dans son cerveau. « Theara et », c'est du grec, ne signifie pas autre chose. Pour moi, je doute fort s'il y a beaucoup à gagner dans cette habituelle contemplation. Sur bien des choses, il vaut mieux s'ignorer soi-même. Certains, à se connaître mieux, deviendraient pires. Tel, voyant son champ ingrat au bon grain, prend l'idée de tirer parti des mauvaises herbes. Aussi, je le regarde plus tant dans mon cerveau, mais ce n'est pas un passe-temps des plus récréatifs que de l'ornier dans celui des autres. Alors j'y applique la loupe, le microscope, et vous ne sauriez croire ce que j'y découvre de petites particularités curieuses, sans compter les grosses qui se voient à l'œil nu, et leur monstruosité qui frappe à distance. Bien fou, Gall, qui prétend juger du contenu par le contenant, du goût d'une orange par ses aspérités, d'un onguent par la boîte. Moi, j'ouvre et je goûte, j'ôte le couvercle et je flaire. Imaginez-vous que tous les cerveaux sont faits d'eux-mêmes. J'entends qu'ils ont tous le même nombre de loges, contenant les mêmes germes, ainsi qu'en toute orange, même nombre de pépins habitent, même nombre de loges pareillement disposées. Mais voici que bientôt, de ces germes, les uns avortant, les autres se développant outre mesure, il résulte des disproportions, d'où éclatent ces différences de caractère qui font les hommes si dissemblables. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a un de ces germes qui n'avorte jamais, qui s'alimente de rien comme de beaucoup, qui prend sa croissance l'un des premiers et décroît le dernier de tous, si bien que celui-là mort, on peut être assuré que tout le reste de l'homme a cessé de vivre. C'est celui de la vanité. Je tiens ceci d'un visiteur de mort, lequel m'a confié que, pour sa part, il s'en tenait à ce signe, le regardant comme plus sûr que tout autre. En sorte qu'appelé auprès d'un défunt, il s'assurait tout d'abord qu'il n'y eut plus aucune envie de paraître, aucun soin de son air, de sa pose, nul souci du regard des autres. Auquel cas, sans même tâter le pouls, il donnait son permis. Et que, pour avoir toujours pratiqué cette recette, il était convaincu de n'avoir jamais envoyé en terre un vivant. Ce que, disait-il, font souvent ses confrères, lesquels s'en tiennent au pouls, au souffle et autres signes incomplets. Il prétendait, ce visiteur, que ce n'est pas tant selon la condition, la richesse ou la profession que ce bourgeon-là varie. Que si quelque chose influe, ce serait plutôt l'âge. Dans l'enfance, il n'est pas le premier à se montrer. Dans la jeunesse, il n'est pas le plus gros. Mais dès 20 ans, c'est un tubercule respectable et vorace qui s'alimente de tout. J'oublie que c'est de mon logis que je voulais parler. J'y coulais dans une paix profonde, les riants loisirs de ma première adolescence, vivant peu avec mon maître, plus avec moi-même, beaucoup avec Eucharis, avec Galatée, avec Estelle surtout. Il y a un âge, un seul à la vérité qui dure peu, où les pastorales de M. de Florian ont un charme tout particulier. J'étais à cet âge. Rien ne me semblait aimable comme ces jeunes bergères, rien de naïf comme leurs phrases précieuses et leurs sentiments à l'eau de rose, rien de champêtre, de rustique comme leurs élégants corsages, comme leurs gentilles houlettes à rubans blanchotants. À peine trouvais-je aux plus jolies demoiselles de la ville la moitié de la grâce, de l'élégance, de l'esprit, du sentiment surtout, de mes chères gardeuses de moutons. Aussi leur avais-je donné mon cœur sans réserve, et ma novice imagination se chargeait de le leur garder fidèle. Enfantines amours, première lueur de ce feu qui plus tard pénètre, étreint, embrase. Que de charme, que de riant et pur éclat dans ces innocentes prémices d'un sentiment si fécond en orage. Le malheur de cette passion-là, c'est que je n'osais pas m'y livrer avec sécurité, et ceci à cause d'un entretien très grave que j'avais eu tout récemment avec mon maître. C'était à propos de la belle conduite de Télémaque dans l'île de Calypso, alors qu'il quitte Charis pour la vertu, laquelle conduite nous traduisions ensemble en fort mauvais latin. Et il précipita Télémaque dans la mer. Et Télémacum in mare de rupe praecipitavit, venais-je de traduire lorsque M. Ratin, c'était mon maître, s'avisa de me demander ce que je pensais de ce procédé de mentor. Cette question m'embarrassa fort, tant je savais déjà qu'il ne faut point blâmer mentor devant son précepteur. Cependant, au fond, je trouvais que mentor s'était comporté en cette occasion d'une façon brutale. « Je pense, répondis-je, que Télémaque fut bien heureux d'en être quitte pour avoir bu l'onde amère. »« Vous comprenez pas ma question, » reprit M. Ratin. « Télémaque était amoureux de la nymphe Charis. Or, l'amour est la passion la plus funeste, la plus méprisable, la plus contraire à la vertu. Un jeune homme qui aime s'adonne là au relâchement et à la mollesse. » Il n'est plus voir rien qu'à soupirer auprès d'une femme, comme fit Hercule au pied d'Omphale. Le procédé du sage mentor était donc le plus admirable entre tous pour arrêter Télémaque sur les bords de l'abîme. « Voilà, ajouta M. Ratin, ce que vous auriez dû me répondre. C'est de cette façon indirecte que j'appris que mon cas était grave et que j'avais déjà bien dévié de la vertu. Car j'aimais Estelle tout aussi évidemment à mes yeux que l'autre Charis. Je résolus donc, à part moi, de combattre un sentiment si coupable et qui pouvait tôt ou tard m'attirer quelques catastrophes, à en juger du moins d'après l'admiration que M. Ratin professait pour le procédé de mentor. Le discours de M. Ratin m'avait fait d'ailleurs une grande impression, bien moins pourtant par ce que j'en pouvais comprendre que par ce que j'y trouvais d'obscur et de mystérieux. En même temps que pour être sage et ne pas tomber dans l'abîme, je réprimais une bien innocente ardeur, mon imagination s'attachait aux paroles sinistres de M. Ratin pour en pénétrer le sens et pour y chercher des révélations. Ce fut là mon premier amour. S'il n'eut pas de suite, vu sa nature toute imaginaire, la façon dont il fut refoulé par le discours de M. Ratin a imprimé à mes autres amours certains traits que l'on pourra reconnaître dans les récits qui suivront. Cette prison dont j'ai parlé n'a qu'une seule fenêtre qui donne de mon côté. En général, les prisons ne sont pas riches en fenêtres. Cette fenêtre est percée dans une muraille d'un aspect noir et triste. Des barreaux de fer empêchent le prisonnier d'avancer la tête au dehors. Et un appareil extérieur, qui lui dérobe la vue de la rue, ne laisse pénétrer dans le fond de sa retraite qu'un peu de la lumière du ciel. Je me souviens que la vue de ce soupirail ne m'inspirait alors que terreur et colère. C'est qu'en effet, dans une société que je me figurais tout entière composée d'honnêtes gens, il me paraissait infâme que quelqu'un s'y permît d'être assassin ou voleur. Et la justice qui protégeait des gens parfaits contre des monstres m'apparaissait comme une matrone saintement sévère dont les arrêts ne pouvaient être trop terribles. Depuis, j'ai changé. La justice m'est apparue moins sainte. Ces gens parfaits ont baissé dans mon estime. Et dans ces monstres, j'ai reconnu trop souvent les victimes de la misère, de l'exemple, de l'injustice. Alors la compassion est venue tempérer la colère. L'esprit des enfants est absolu parce qu'il est borné, les questions n'ayant pour eux qu'une face sont toutes simples, en sorte que la solution en paraît aussi facile qu'évidente à leur intelligence plus droite qu'éclairée. C'est pour cela que les plus doux d'entre eux disent parfois des choses dures, que les plus humains tiennent des propos cruels. Sans être de ces plus humains, cela m'arrivait souvent, et quand je voyais conduire un homme en prison, toute ma sympathie était pour les gendarmes, toute mon horreur pour cet homme. Ce n'était ni cruauté ni bassesse, c'était droiture. Plus vicieux, j'aurais détesté les gendarmes et plein l'homme. Un jour, j'en vis passer un qui alluma toute mon indignation. C'était le complice d'un atroce assassin. Entre deux, ils avaient tué un vieillard pour s'emparer de son argent. Puis, aperçu par un enfant au moment du crime, il s'était défait de cet innocent témoin par un second meurtre. Le camarade de cet homme avait été condamné à mort. Mais lui, soit habileté dans la défense, soit quelques circonstances atténuantes, était condamné seulement à une réclusion perpétuelle. Au moment où, près d'entrer dans la prison, il passa sous ma fenêtre, il regardait les maisons voisines avec curiosité. Ses yeux ayant rencontré les miens, il sourit comme s'il m'avait connu. Ce sourire-là me fit une impression sinistre et profonde. Pendant toute la journée, rien ne put le chasser de ma pensée. Je résolus d'en parler à mon maître, qui saisit cette occasion pour me faire une remontrance sur le temps considérable que je perdais à regarder dans la rue. C'était, quand j'y songe, un drôle d'homme que mon maître. Moral et pédant, respectable et risible, grave et ridicule, en telle sorte qu'il me faisait une impression à la fois vénérable et bouffonne. Tel est pourtant l'empire de l'honnêteté et l'ascendant des principes, lorsque la conduite est en accord avec eux, que malgré les faits vraiment risibles que me faisait M. Ratin, il avait sur moi plus d'influence que tel maître bien plus habile ou bien plus sensé, mais en qui j'aurais surpris le moindre désaccord entre les préceptes qu'il me donnait à suivre et ceux qu'il suivait lui-même. Il était pudibond à l'excès. Nous sautions des pages entières de Télémaque comme contraire aux bonnes mœurs, et il prenait soin de me prémunir contre toute sympathie pour l'amoureuse Calypso, m'avertissant que je rencontrerais dans le monde une foule de femmes dangereuses qui lui ressemblaient. Cette Calypso, il la détestait. Cette Calypso, bien que déesse, c'était sa bête noire. Quant aux auteurs latins, nous n'avions garde de les lire d'ailleurs que dans les textes expurgés par le jésuite Jouvency. Encore enjambions-nous bien des passages que ce pudique jésuite avait cru sans danger. De là, l'épouvantable idée que j'étais porté à me faire d'une foule de choses. De là aussi, l'épouvantable frayeur que j'avais de laisser voir à M. Ratin mes plus innocentes pensées, si seulement elles avaient quelque teinte amoureuse, quelque lointain rapport avec Calypso, sa bête noire. Il y aurait beaucoup à dire sur ce point. Cette méthode enflamme plus qu'elle ne tempère. Elle comprime plus qu'elle ne prévient. Elle donne des préjugés plutôt que des principes. Son premier effet surtout est d'altérer presque infailliblement la candeur, cette fleur délicate qu'un rire flétri que rien ne relève. Au surplus, M. Ratin, tout farci de latinité et d'ancienne Rome, mais bonhomme au demeurant, était plus harangueur que sévère. À propos d'un pâté d'encre, il citait Sénèque. À propos d'une espièglerie, il me proposait Caton d'Utique pour exemple. Mais une chose qui ne pardonnait pas, c'était le fou rire. Cet homme voyait dans le fou rire les choses les plus singulières, l'esprit du siècle, l'immoralité précoce, le signe certain d'un avenir déplorable. Oh, sur ce point, il pérorait avec passion interminablement. J'attribue ceci à une verrue qu'il avait sur le nez. Cette verrue était de la grosseur d'un pois chiche, et surmontée d'une petite houppe de poils très délicats, très hygrométriques aussi. Car j'avais remarqué que, selon l'état de l'atmosphère, ils étaient plus roides ou plus bouclés. Il m'arrivait souvent, durant mes leçons, de la considérer le plus naïvement du monde comme un objet curieux, sans aucune idée de moquerie. J'étais dans ces cas-là brusquement interpellé et tensé vertement sur ma distraction. D'autres fois, plus rarement, une mouche voulait obstinément s'y poser malgré l'impatiente colère de mon maître, qui pressait alors l'explication afin qu'attentif au texte, je ne m'aperçusse point de cette lutte singulière. Mais cela même m'avertissait qu'il se passait quelque chose, en sorte qu'une curiosité irrésistible faisait lever furtivement les yeux sur son visage. Selon ce que j'avais vu, le fou rire commençait à me prendre, et pour peu que la mouche insistât, il devenait irrésistible aussi. C'est alors que M. Ratin, sans paraître concevoir le moins du monde la cause d'un pareil scandale, tonnait contre le fou rire en général et m'en démontrait les épouvantables conséquences. Le fou rire est néanmoins une des douces choses que je connaisse. Ces fruits défendus par tant exquis, les harangues de mon maître n'en ont pas tant guéri que l'âge. Pour fou rire avec délice, il faut être écolier, et si possible avoir un maître qui ait sur le nez une verrue et trois poils follets. Cet âge est sans pitié. Réfléchissant depuis à cette verrue, je me suis imaginé que tous les gens susceptibles ont ainsi quelque infirmité physique ou morale, quelque verrue occulte ou visible, qui les prédispose à se croire moqués de leur prochain. Ne riez pas devant ces gens-là. C'est rire d'eux. Ne parlez jamais de loupe ni de bourgeon. C'est faire des allusions. Jamais de Cicéro, de Scipion d'Asica, vous auriez une affaire. C'était le ton des hannetons. Il m'avait bien diverti autrefois, mais je commençais à n'y prendre plus de plaisir. Comme on vieillit. Toutefois, pendant que, seul dans ma chambre, je faisais mes devoirs avec un mortel ennui, je ne dédaignais pas la compagnie de quelqu'un de ces animaux. À la vérité, il ne s'agissait plus de l'attacher à un fil pour le faire voler, ni de l'atteler à un petit chariot. J'étais déjà trop avancé en âge pour m'abandonner à ces puériles récréations. Mais penseriez-vous que ce soit là tout ce qu'on peut faire d'un hanneton? Erreur grande! Entre ces jeux enfantins et les études sérieuses du naturaliste, il y a une multitude de degrés à parcourir. J'en tenais un sous un verre renversé. L'animal grimpait péniblement les parois pour retomber bientôt et recommencer sans cesse et sans fin. Quelquefois, il retombait sur le dos. C'est, vous le savez, pour un hanneton, un très grand malheur. Avant de lui porter secours, je contemplais sa longanimité à promener lentement ses six bras par l'espace dans l'espoir toujours déçu de s'accrocher à un corps qui n'y est pas. C'est vrai que les hannetons sont bêtes, me disais-je. Le plus souvent, je le tirais d'affaire en lui présentant le bout de ma plume, et c'est ce qui me conduisit à la plus grande, à la plus heureuse découverte, de telle sorte qu'on pourrait dire, avec Berquin, qu'une bonne action ne reste jamais sans récompense. Mon hanneton s'était accroché aux barbes de la plume, et je l'y laissais reprendre ses sens pendant que j'écrivais une ligne plus attentif à ses faits et gestes qu'à ceux de Jules César, qu'en ce moment je traduisais. S'envolerait-il ou descendrait-il le long de la plume? À quoi tiennent pourtant les choses? S'il avait pris le premier parti, c'était fait de ma découverte. Je ne l'entrevoyais même pas. Bien heureusement, il se mit à descendre. Et quand je le vis qui s'approchait de l'ancre, j'eus des avant-coureurs, j'eus des pressentiments qu'il allait se passer de grandes choses. Ainsi Colomb, sans voir la côte, pressentait son Amérique. Voici en effet le hanneton qui, parvenu à l'extrémité du bec, trempe sa tarière dans l'ancre. Vite un feuillet blanc, c'est l'instant de la plus grande attente. La tarière arrive sur le papier, dépose l'encre sur sa trace, et voici d'admirables dessins. Quelquefois le hanneton, soit génie, soit que le vitriol inquiète ses organes, relève sa tarière et la baisse tout en cheminant. Il en résulte une série de points, un travail d'une délicatesse merveilleuse. D'autres fois, changeant d'idée, il se détourne, puis changeant d'idée encore, il revient. C'est une S. À cette vue, un trait de lumière m'éblouit. Je dépose l'étonnant animal sur la première page de mon cahier, la tarière bien pourvue d'encre, puis armé d'un brin de paille pour diriger les travaux et barrer les passages, je le force à se promener de telle façon qu'il écrive lui-même mon nom. Il fallut 2 heures, mais quel chef-d'œuvre! La plus noble conquête que l'homme ait jamais faite, dit Buffon, c'est... Eh bien, c'est bien certainement le hanneton. Pour diriger cette opération, je m'étais approché du jour. Nous achevions la dernière lettre lorsqu'une voix appela doucement. « Mon ami !» Je regardai aussitôt dans la rue, il n'y avait personne. « Ici !» dit la même voix. « Où ? » répondis-je. « À la prison !» Je compris que ces paroles, sorties du soupirail, m'étaient adressées par le scélérat, dont l'affreux sourire m'avait tant bouleversé. Je reculai jusque dans le fond de ma chambre. « N'aie pas peur !» continua la voix. « C'est un brave homme qui te parle. »« Coquin !» lui criai-je. « Si vous continuez à me parler, je vais avertir le fonctionnaire là-bas. » Il se tut un moment. « En passant l'autre jour dans la rue, reprit-il, je vis votre figure et vous attribuez un cœur capable de plaindre une victime infortunée de la justice des hommes. « Taisez-vous, lui criai-je encore, scélérat, qui avait tué un vieillard, un enfant. Mais vous êtes, je le vois, aveuglé comme les autres, bien jeune pourtant pour déjà croire au mal. » Il se tut à l'ouïe d'une personne qui passait dans la rue. C'était un monsieur vêtu de noir. J'ai su depuis que c'était un employé aux pompes funèbres. Lorsque cet homme se vit éloigné, « Voilà, dit-il, le respectable aumônier de la prison. Celui-là, c'est Dieu merci, que mon cœur est pur et mon âme sans tache. » Il se tut encore. Cette fois, c'était un gendarme. J'hésitais à l'appeler pour lui redire les paroles du prisonnier. Mais ces paroles même avaient déjà assez agi sur ma crédulité pour que je comprimasse ce mouvement. Il me semblait d'ailleurs qu'il eût eu quelque trahison à le faire, puisque le prisonnier s'était fié à la candeur de mon visage. C'eût été démentir un éloge qui flattait mon amour-propre. J'ai dit plus haut que le bourgeon s'alimente de tout. Il n'est main civile qui ne puisse encore le chatouiller agréablement. Après cet entretien, qui m'avait attiré vers la fenêtre, le prisonnier continuant à se taire, je retournai à mon hanneton. Je suis certain que je dus pâlir. Le mal était grand, irréparable. Je commençai par saisir celui qui en était l'auteur et je le jetai par la fenêtre. Après quoi, j'examinai avec terreur l'état désespéré des choses. On voyait une longue trace noire qui, partie du chapitre 4 du Bello Gallico, allait droit vers la marge de gauche. Là, l'animal, trouvant la tranche trop roide pour descendre, avait rebroussé vers la marge de droite, puis étant remonté vers le nord, il s'était décidé à passer du livre sur le rebord de l'encrier, d'où, par une pente douce et polie, il avait glissé dans l'abîme, dans la géhenne, dans l'encre, pour son malheur et pour le mien. Là, le hanneton, ayant malheureusement compris qu'il se fourvoyait, avait résolu de rebrousser chemin, et, en deuil de la tête aux pieds, il était sorti de l'encre pour retourner au chapitre 4 du Bello Gallico, où je le retrouvais qui n'y comprenait rien. C'étaient des pâtés monstrueux, des lacs, des rivières, et toute une suite de catastrophes sans délicatesse, sans génie, un spectacle noir et affreux. Or, ce livre, c'était l'Helvésir de mon maître, Helvésir in quarto, Helvésir rare, coûteux, introuvable, et commis à ma responsabilité avec les plus graves recommandations. Il est évident que j'étais perdu. J'absorbais l'encre avec du papier brouillard, je fis sécher le feuillet, après quoi je me mis à réfléchir sur ma situation. J'éprouvais plus d'angoisse que de remords. Ce qui m'effrayait le plus, c'était d'avoir à avouer le hanneton. De quel œil terrible mon maître ne considérait-il pas cette honteuse manière de perdre mon temps, à cet âge de réseau où il disait que j'étais maintenant parvenu, et de le perdre en puérilité dangereuse et très probablement immorale. Cela me faisait frémir. Satan, dont je me défiais point pour l'heure, se mit à m'offrir des calmants. Satan est toujours là à l'heure de la tentation. Il me présentait un tout petit mensonge. Durant mon absence, cet infâme chat de la voisine serait entré dans la chambre et aurait renversé l'encrier sur le chapitre 4 du Bello Gallico. Et comme je ne devais point sortir entre les leçons, j'aurais motivé mon absence sur la nécessité d'aller acheter une plume. Et comme les plumes étaient dans une armoire à ma portée, j'aurais avoué avoir perdu la clé hier au bain. Et comme je n'avais pas eu permission hier d'aller au bain et que je n'y avais réellement pas été, j'aurais supposé y avoir été sans permission et avoué cette faute, ce qui aurait jeté sur tout l'artifice beaucoup de ressemblances et en même temps diminué mes remords puisque je m'accusais généreusement d'une faute, ce qui à mes yeux m'absolvait presque. Ce chef-d'œuvre de combinaison était tout près lorsque j'entendis le pas de M. Ratin qui montait l'escalier. Dans mon trouble, je fermai le livre, je le rouvris, je le fermai encore pour le rouvrir précipitamment, sur ce motif que le pâté parlerait de lui-même et m'épargnerait l'embarras terrible des premières ouvertures. M. Ratin venait pour me donner ma leçon. Sans voir le livre, il posa son chapeau, il plaça sa chaise, il s'assit, il se moucha. Pour avoir une contenance, je me mouchai aussi. Sur quoi M. Ratin me regarda fixement, car il s'agissait de nez. Je ne compris pas d'abord que M. Ratin sondait l'intention que j'avais pu avoir en me mouchant presque au même instant que lui, en sorte que, m'imaginant qu'il avait vu le pâté, je baissai les yeux, plus décontenancé par son silence scrutateur que je n'aurais été par des questions auxquelles j'étais prêt à répondre. À la fin d'un ton solennel, « Monsieur, Je lis sur votre figure. Non, monsieur, je lis, vous dis-je. Non, non, monsieur, c'est le chat, interrompis-je. Ici, monsieur Ratin changea de couleur, tant cette réponse lui sembla dépasser toutes les limites connues de l'irrévérence. Il allait prendre un parti violent, lorsque, ses yeux étant tombés sur le monstrueux pâté, cette vue lui produisit un soubresaut qui, par contre-coup, en produisit un sur moi. C'était le moment de conjurer l'orage. « Monsieur, pendant que j'étais sorti, le chat, pour acheter une plume, le chat, parce que j'avais perdu la clé hier au bain, le chat. » À mesure que je parlais, le regard de monsieur Ratin devenait si terrible qu'à la fin, ne pouvant plus le soutenir, je passais sans transition à l'aveu de mes crimes. « Je mens, monsieur Ratin, c'est moi qui ai fait ce malheur. » Il se fit un grand silence. « Ne vous étonnez point, monsieur, dit enfin monsieur Ratin d'une voix solennelle, si l'excès de mon indignation en comprime et en retarde l'expression. Je dirais même que l'expression me manque pour qualifier. » Ici une mouche, un souffle de fou rire parcourut mon visage. Il se fit de nouveau un grand silence. Enfin, monsieur Ratin se leva. « Vous allez, monsieur, garder la chambre pendant 2 jours pour réfléchir sur votre conduite, tandis que je réfléchirai moi-même au parti que je dois prendre dans une conjoncture aussi grave. » Là-dessus, monsieur Ratin sortit, enfermant l'appartement dont il emporta la clé. L'aveu sincère m'avait soulagé, le départ de M. Ratin m'ôtait la honte, de façon que les premiers moments de ma captivité ressemblèrent fort à une heureuse délivrance. Et sans l'obligation que je me voyais de songer 2 jours à mes fautes, je me serais fort réjoui, comme on y est disposé au sortir des grandes crises. Je me mis donc à songer, mais les idées ne venaient pas. Quand je voulais approfondir ma faute, je n'y voyais de grave que le mensonge, réparé pourtant par un aveu que je me plaisais à trouver spontané. Toutefois, pour la bonne règle, je tâchais de me repentir. Et voyant la peine que j'avais à y parvenir, je commençais à craindre que mon cœur ne fût effectivement déjà bien mauvais, immoral, comme disait M. Ratin, en sorte que je formais avec contrition le projet de renoncer désormais au fou rire. J'en étais là quand vint à passer dans la rue le marchand de petits gâteaux. C'était son heure. L'idée de manger des petits gâteaux se présenta naturellement à mon esprit. Mais je me fis un scrupule de céder à cette tentation de la chair dans un moment où c'était sur l'âme qu'il m'était enjoint de travailler, de façon que, laissant le marchand attendre et crier, je restais assis au fond de ma chambre. Mais ceux qui ont observé les marchands de petits gâteaux savent combien ils sont tenaces envers la pratique. Celui-ci, bien qu'il ne me vît point paraître encore, me tirait de cette circonstance aucune induction fâcheuse pour son affaire, mais bien au contraire, continuait à crier avec la plus robuste foi ma gourmandise. Seulement, il ajoutait au mot de gâteau l'épithète pressante de tout chaud, et il est bien vrai que cette épithète faisait des ravages dans ma moralité. Heureusement, je m'en aperçus et j'y mis bon ordre. Je crus devoir, cependant, ne pas laisser dans son erreur cet honnête industriel à qui je faisais perdre un temps précieux. Je me mis à la fenêtre pour lui dire que je ne prendrais pas de gâteau pour ce jour-là. « Dépêchons-nous, » dit-il, « je suis pressé. » J'ai déjà dit qu'il croyait en moi plus que moi-même. « Non, » repris-je, « je n'ai point d'argent. »« Crédit. » « Et puis je n'ai pas faim. »« Mensonge. » « Et puis je suis très occupé. »« Vite. » « Et puis... je suis prisonnier. » Ah, vous m'ennuyez, dit-il en soulevant son panier comme pour s'éloigner. Ce geste me fit une impression prodigieuse. Attendez, lui criai-je. Quelques instants après, une casquette artistement suspendue à une ficelle hissait deux petits gâteaux tout chauds. Bête de hanneton, pensai-je en mangeant mon gâteau, qui avait quatre ailes pour s'envoler, se va jeter dans un puits. Sans cette stupidité inconcevable, je faisais mes devoirs tranquillement, j'étais sage. Monsieur Ratin content, et moi aussi. Point de mensonge, point de prison. Bête de hanneton. Heureuse idée que j'eus là. J'avais trouvé le bouc expiatoire, en sorte que peu à peu, le chargeant de tous mes méfaits, ma conscience reprenait un calme charmant. Ce qui y contribuait, je m'imagine, c'est que l'indignation de M. Ratin avait été si forte qu'il avait entièrement oublié de me donner des devoirs à faire. Or, deux jours et point de devoirs, c'était peut-être de toutes les punitions, celle que j'aurais choisie comme la plus délicieuse. Une fois en paix avec ma conscience et ayant devant moi deux jours de fête, je voulus embellir ma demeure par quelques dispositions qui me souriaient fort. La première fut d'éloigner de ma vue l'Elzévir, le dictionnaire, tous les livres et cahiers d'études. Cette opération faite, j'éprouvais une sensation si agréable que nouvelle. C'était comme si l'on m'eût ôté mes fers. Ainsi, c'est en prison que je devais connaître pour la première fois tout le charme de la liberté. Charme bien grand. Pouvoir légitimement dormir, ne rien faire, rêver. Et cela à cet âge où notre propre compagnie est si douce, notre cœur si riche en entretien charmant, notre esprit si peu difficile en jouissance, où l'air, le ciel, la campagne, les murs ont tous quelque chose qui parle, qui émeut, où un acacia est un univers, un hanneton, un trésor. Ah, que ne puis-je remonter vers ces heures fortunées, retrouver ces loisirs enchanteurs. Que le ciel est pâle aujourd'hui, que les heures sont lentes, les loisirs ingrats. Je retrouve sans cesse cette idée sous ma plume. Chaque fois que j'écris, elle me presse de lui donner le jour. Je l'ai fait mille fois, je le fais encore. En vain le bonheur m'accompagne, en vain les années m'ont apporté chacune un tribut de bien, en vain les jours se lèvent purs et sereins. Rien n'efface de mon cœur ces souvenirs d'alors. Plus je vieillis, plus ils semblent rajeunir, plus j'y trouve un sujet d'attendrissante mélancolie. Je possède plus que je ne désirerais, mais je regrette l'âge du désir. Les biens positifs me paraissent moins savoureux que ce nuage vide, mais brillant, qui m'enveloppant alors, m'entretenait dans une constante ivresse. Fraîche matinée de mai, ciel bleu, lac aimable. Vous voici encore, mais qu'est devenu votre éclat? Qu'est devenu votre pureté? Où est votre charme indéfinissable de joie, de mystère, d'espérance? Vous plaisez à mes yeux, mais vous ne remplissez plus mon âme. Je suis froid à vos riantes avances. Pour peu que je vous chérisse encore, il faut que je remonte les années, que je rebrousse vers ce passé qui ne reviendra plus. Chose triste, sentiment amer. Ce sentiment, on le retrouve au fond de toute poésie, si encore il n'en est pas la source principale. Nul poète ne s'alimente du présent. Tous rebroussent. Il faut plus. Refoulés vers ces souvenirs par les déceptions de la vie, ils en deviennent amoureux. Déjà, ils leur prennent des grâces que la réalité n'avait pas. Ils transforment leurs regrets en beauté dont ils les parent. Et, se créant à l'envi un brillant fantôme, ils pleurent d'avoir perdu ce qu'ils ne possédaient pas. En ce sens, la jeunesse est l'âge de la poésie, celui où elle amasse ses trésors, mais non, comme quelques-uns le croient, celui où elle peut en faire usage. De cet or pur et entassé autour d'elle, elle ne sait rien tirer. Vienne le temps qui le lui arrache pièce à pièce, alors, en lui disputant sa proie, elle commence à connaître ce qu'elle avait. Par ses pertes, elle apprend ses richesses, par ses regrets, ses joies taries. Alors le cœur se gonfle, alors l'imagination s'allume, alors la pensée se détache et s'élève vers la nue. Alors Virgile chante. Mais que dire de ces poètes imberbes qui chantent à cet âge où, s'ils étaient vraiment poètes, ils n'auraient pas trop de tout leur être pour sentir, pour s'enivrer en silence de ces parfums que plus tard seulement, ils sauront répandre dans leurs vers.